Le leadership. Scandia et FETS, mobiliser le groupe pour le travail adaptatif. C'est pour lui la vision claire du leadership. Alors, clairement, ce qu'il nous apprend, c'est de bien distinguer, comme on l'a fait au travers des deux cas précédents que nous avions discuté la semaine passée, entre le défi technique, en l'occurrence ici c'est le tronc d'arbre, et puis le défi adaptatif, le basculement de vision des gens. Ici vous les voyez, vous ne les voyez pas bien, mais voilà, en train de discuter dans le bus plutôt que d'agir. Parce que inconsciemment ils se disent, ce problème c'est pas nous, c'est pas à nous de le résoudre. Et si on reprend les deux exemples qu'on a discutés la semaine passée, eh bien on retrouve un peu le même type de problématique. Dans le cas de Ruckelshaus et de cette ville qui a des problèmes suite à la fermeture éventuelle de l'usine, ben c'est le défi adaptatif pour les gens, c'est pas tant la fermeture de l'usine, de savoir s'il faut fermer ou non l'usine. Ça c'est un problème technique. Le défi adaptatif, c'est pour les gens de se dire comment pourrions-nous vivre sans cette usine? Comment pourrions-nous redéployer nos talents, nos compétences, comment s'y préparer, etc. Et ce que fait Ruckelshaus en refusant précisément de trancher le problème technique, qui est la fermeture de l'usine, pour lequel il a autorité, il force, il invite les gens, et même il les aide au travers de workshops, etc., à réfléchir sur ce qu'ils pourraient faire autrement. Il les amène à ça, il les aide à ça. De même, la dame, le docteur face à ce monsieur qui est en phase terminale de cancer, précisément en y allant progressivement, en l'invitant à se poser des questions sur sa succession, sur ses enfants, etc., elle l'invite à penser comment mourir dignement, sans lui imposer quoi que ce soit. Alors que si elle l'avait trop rapidement, en tout cas vu la personnalité du patient, il lui a dit trop rapidement les choses, trop brutalement, vu l'expérience de plus de 10 ans qu'il avait de le traiter, il se disait, ça l'aurait amené, en gros, à refuser le diagnostic, chercher d'autres médecins, etc. Et en gros, alors, à perdre du temps, non pas sur les questions importantes, mais sur des détails, sur des problèmes techniques, plutôt que sur ce qu'il devait vraiment apprendre à faire, c'est-à-dire réfléchir sur sa mort imminente. Alors, vous l'avez vu aussi, un des problèmes, c'est que face à un défi adaptatif, à tout défi, il y a toujours une montée de stress du groupe individuel et du groupe. Donc vous voyez ces gens qui se disputent, ces gens ici, la police qui engueule l'un, etc. D'autres qui prennent le thé, qui s'en foutent, d'autres qui fuient. Voilà, tous des comportements en fait de fuite par rapport au problème, qui s'illustrent de manière différente. Et donc, ce que nous dit Eiffel, c'est ça, c'est vraiment fondamental. Et quand vous aurez l'opportunité, vous en avez peut-être déjà au travers de différentes situations, que ce soit avec les scouts, dans votre groupe, dans votre classe ou année, ou même dans des situations comme celles qu'on vient de vivre tout à l'heure, eh bien, voilà, les choses sont assez simples en fait. C'est que, à tout moment dans un groupe, il peut y avoir des situations qui provoquent une montée de stress. Le stress, si on a trop, il mène au comportement de fuite que j'ai évoqué. Et donc, une des tâches du leader, quel qu'il soit, qu'il ait une autorité formelle ou informelle, ça va être de faire redescendre ce niveau de stress de telle manière à ce qu'il soit productif. Qu'est-ce que ça veut dire productif? Ça veut dire qu'il soit dans une zone où le stress est positif et stimule à l'action plutôt qu'à l'inhibition ou à la fuite. Parce que s'il y a trop de stress, ben ça mène à ce qu'on a vu. Si on n'a pas assez, les gens ne bougent pas non plus. Donc quelque part, il faut trouver cette zone productive du stress. Et donc, si vous le voulez, le leader dans ces cas-là, c'est quelqu'un qui vraiment essaye de trouver les façons que le groupe ou la personne soit dans les conditions d'agir consciemment, intelligemment. Je reprends l'exemple de ce docteur. En lui donnant l'information de manière progressive et non pas brutale, elle évite à ce que le couple et le patient passent trop vite un trop haut niveau de stress. En le faisant de manière progressive, mais quand même continue, elle évite aussi qu'il soit trop bas, en disant « mais il n'y a pas de problème, vous allez vivre 100 ans, etc. » Non, elle l'amène dans cette zone qui lui permet de se prendre en main. Quelque part, quelque chose le fait aussi. Il refuse de trancher sur la fermeture de l'usine, ce qui provoque du stress, parce que de l'incertitude, mais en même temps, il met en place des ateliers de travail, de l'information, etc., qui va, au contraire, permettre à ce que ce stress redescende. Et donc, ce qu'on voit, c'est que pour ce faire, eh bien, il faut trouver la bonne modulation du stress. Parce que, et c'est très important, le groupe ou la personne concernée par le problème, typiquement, veut éviter de travailler sur ce problème. C'est un phénomène naturel humain. Et donc, typiquement, les gens, le groupe, remettent ce travail sur celui qui est prêt à jouer le leader. Et ce que doit éviter le véritable leader, c'est d'accepter que le groupe croit qu'il peut se débarrasser du problème en le mettant sur les épaules du leader. Il doit aussi, le leader, refuser de faire croire aux gens que le problème, il va le traiter en deux coups comme ça. Et c'est sur cette base-là, plus que sur une base éthique, que je conteste fortement avec Heifetz l'idée selon laquelle, par exemple, Hitler était un leader. L'idée selon laquelle Marine Le Pen ou des dirigeants d'extrême droite sont des leaders. Pour moi, ce ne sont pas des leaders. Pas parce que je conteste leur idée, raciste ou autre, mais fondamentalement parce que ce sont des gens qui font croire que grâce à leur solution simpliste, ils vont permettre au peuple d'éviter le travail que ce peuple doit faire sur lui-même pour solutionner ses problèmes. Typiquement, dans les années 30, Hitler, qu'est-ce qu'il fait ? Il est face à une population allemande qui est sous stress suite à la débâcle de la Première Guerre mondiale et aux problèmes économiques que tout cela engendre. Il y a des problèmes profonds dans l'Allemagne à ce moment-là. Hitler, ce qui fait son succès, c'est de venir avec un discours simple qui est fondamentalement, si je le caricature un peu, de foutre la responsabilité sur les autres. Et de dire en gros, mes amis, nous allons résoudre votre problème en tuant les juifs, en les envoyant dans les champs, en tuant tous les handicapés, les... Enfin, en gros, si on arrive à purifier la race aryenne, tous nos problèmes seront réglés. De même aujourd'hui, les gens de l'extrême droite tiennent un discours simpliste qui est de dire, en gros, nous Français, pas de problème, si on fout dehors tous les émigrés, tout ira bien, il y aura du travail pour tout le monde. Ce qui est de la vaste blague. Mais pourquoi est-ce que ça marche, ce discours ? Parce que ce discours répond aux attentes de beaucoup de gens dans la population, même ceux qui ne sont pas racistes. Parce que ça leur permet de se décharger du problème. C'est ce « work avoidance » que nous avons tous. Le problème avec ce discours, c'est qu'il ne résout rien, parce qu'il n'attaque pas véritablement leur problème à la source. Et que donc, tôt ou tard, malgré cette accalmie temporaire grâce à ce discours, les problèmes vont se remanifester d'autant plus fort et le stress va réaugmenter. On aura donc réussi, à travers ce type de discours, qu'à calmer un moment les esprits sans véritablement avoir traité les problèmes à la racine. Problèmes qui, entre-temps, deviennent de plus en plus importants, évidemment. Donc voilà, si on considère que le leader est celui qui véritablement mobilise le groupe pour faire face aux problèmes auxquels il doit faire face, alors ceux qui viennent avec des solutions simplistes du type dont je vous ai parlé ne sont pas des leaders. Ce sont des gens qui abusent d'un pouvoir rhétorique ou éventuellement d'un pouvoir formel pour mener les gens en bateau et leur faire croire qu'on va résoudre leurs problèmes pour eux. Oui, sauf enfin, oui, mais attention. Alors, c'est là que, merci de ta question. C'est là que, en fonction de la complexité de la situation, le leader va pouvoir essayer de décomposer le problème en distinguant des solutions techniques et des solutions adaptatives, des approches adaptatives. Je reprends l'exemple du patient et du docteur. Ce que fait le docteur, c'est d'aider le patient à décomposer son problème. Son problème, on va dire, c'est celui de prendre conscience qu'il va mourir et d'accepter cette mort et en fonction de cela, commencer à s'organiser pour le faire. Et s'organiser pour le faire, c'est par exemple veiller à bien assurer la succession, le transfert de propriété de sa société. C'est veiller à la pension de sa femme ou des choses comme ça après sa mort. C'est veiller à mettre de l'argent de côté pour ses enfants qui, enfin, ou trouver un mécanisme assurantiel qui va le permettre. Des choses très pratiques, très techniques, mais qu'il ne va pouvoir faire que dans la mesure où il commence à prendre conscience que les jeux se situent, enfin, l'enjeu se situe à un autre niveau. Et de même, en l'amenant à réfléchir là-dessus, elle induit un changement chez le patient. Et donc, typiquement, le docteur, dans ce cas-ci, en leader, entre guillemets, aide le patient à décomposer le problème. Donc oui, dans toute situation, il y a probablement une partie qui est plus adaptive, une partie qui est plus technique. Et il peut y avoir, si tu veux, des moments où le leader va calmer les esprits en proposant une solution technique, même si celle-ci ne va pas être suffisante pour traiter le problème. Mais il va permettre de calmer un peu le jeu, de ramener le groupe à un niveau productif de travail, de stress, et ainsi alors à avancer dans des solutions beaucoup plus globales et plus importantes. Mais si vraiment on a face à un problème adaptif, aucune solution technique ne sera suffisante. Typiquement, aujourd'hui, face à l'ampleur du défi sociétal auquel nous faisons face, aucune solution technique ne sera suffisante. Ça, il faut bien se le dire. Certaines vont pouvoir nous aider à temporiser un peu les choses, à retarder les échéances, hein, des solutions fiscales, des solutions de ceci, de cela. Tout ça, ça peut jouer un rôle, mais pas suffisant que pour nous faire vraiment basculer dans une autre économie, qui, elle, va nous demander de voir les choses différemment. Voilà, c'est vraiment le cœur de l'enseignement d'IFET, et pour moi, c'est un enseignement fondamental du leadership, c'est prendre conscience de cela. Et donc, c'est pour le leader de refuser de traiter des problèmes qui doivent être traités par d'autres. Ça paraît être à l'opposé de ce qu'on attend du leader habituellement, mais précisément. Son rôle, c'est d'éviter à ce que les gens reportent sur lui leurs problèmes. Lui, il doit les aider à se prendre en charge. Donc en ce sens, c'est une vision du leadership qui autonomise les gens plutôt que de les asservir à un leader charismatique. Et justement, on le voit bien, si on regarde alors les challenges, on voit bien qu'en fait, nous avons une vision du leadership qui correspond à la résolution de problèmes techniques. Alors que le véritable leadership, il se situe autour de la résolution de problèmes adaptifs, qui peuvent englober eux-mêmes des problèmes techniques, mais qui sont beaucoup plus complexes, parce qu'ils impliquent des changements de mentalité chez les gens. Typiquement, par exemple, en termes de direction de vision, etc., dans un problème technique, on s'attend à ce que l'autorité donne une définition du problème et sa solution. Dans le challenge adaptif, au contraire, l'autorité, le leader, va essayer de définir ce qu'est le défi, de le clarifier pour les gens. Il va proposer éventuellement des diagnostics et des questions, mais il ne va pas lui-même proposer la solution. Il faut que ce soit le groupe qui vienne avec la solution. De même, au niveau de la protection, on s'attend souvent à ce que le leader ou l'autorité protège des menaces extérieures. Ici, au contraire, le leader doit montrer qu'il y a une menace extérieure. Il doit la révéler et que si le groupe ne bouge pas, il va avoir de gros problèmes. Orientation. On s'attend à ce que l'autorité oriente, guide, etc. Non, au contraire, dans une situation pareille, la tâche du leader est de désorienter le groupe. Désorienter non pas pour qu'il se perde, mais pour que désorienté, il soit obligé de prendre conscience de la situation dans laquelle il se trouve. Et donc, soit prêt à adapter de nouveaux rôles. Contrôler les conflits. On s'attend habituellement à ce que l'autorité soit là pour remettre de l'ordre. C'est le discours de l'extrême droite. Remettons l'ordre, c'est le bordel. Mais la façon dont ils vont remettre de l'ordre, le problème, c'est qu'il ne va pas résoudre le problème à sa base. Et donc, ça aura peut-être un effet un temps, mais ce sera superficiel et ça reprendra de plus belle après. Non, au contraire. Dans une situation adaptive, le rôle du leader ou de l'autorité est d'exposer, de révéler le conflit et de le laisser émerger de la façon la plus contrôlée possible pour que justement le stress n'explose pas complètement. La maintenance des normes. Typiquement, l'autorité maintient les normes, etc., maintient l'ordre. Ici, il les défie ou il permet qu'ils soient challengés. Typiquement, si je suis dans une posture de manager ou de leader classique, je fais respecter l'ordre et la norme. Au contraire, permettre que vous puissiez poser les questions, que vous sentiez en confiance pour poser les questions, vous stimuler à ce que vous posiez les questions. En ce sens, on pourrait presque dire que nous n'avons pas, Vincent et moi, suffisamment, nous ne vous avons pas suffisamment donné confiance en vous que pour nous défier dans l'exercice que nous avons fait tout à l'heure. Bon. C'est pas possible. Voilà. Donc, ce qui ne veut pas dire que face à de tels challenges techniques, on ne puisse pas adopter ce type de comportement. Dans certains cas, quand le problème est véritablement technique, on peut y aller et adopter ce type de leadership autoritaire. C'est parfois nécessaire. Mais il faut bien distinguer les deux. Et donc, Heifetz en vient à résumer un peu sa théorie autour de 5 grands principes. Et donc le premier, je vous en ai parlé, c'est d'identifier l'adaptive challenge, le défi adaptatif, de ne pas se tromper de problème, de ne pas prendre un problème comme étant technique alors qu'il est adaptif. Le problème de l'Allemagne dans les années 30 n'est pas simplement de foutre dehors les étrangers ou les juifs. Hitler l'a présenté comme un problème technique qu'il solutionnait de façon technique. Grave erreur. D'où tous les problèmes qui s'en sont suivis. Idem, trop facile de dire qu'on va solutionner nos problèmes en foutant dehors les émigrés. Faux diagnostic, fausse solution. Par contre, identifier le problème, ça c'est beaucoup plus dur, et commencer à le décomposer pour éventuellement alors trouver des solutions techniques temporaires qui permettent d'avancer sur la résolution du défi plus global. Deuxième chose, et ça c'est fondamental, c'est continuellement refuser de prendre sur soi la résolution du problème qui doit être résolu par le groupe. Donc constamment remettre ça sur le groupe. Typiquement, Ruckelshaus, qui malgré qu'il est accusé d'être un lâche, de ne pas prendre ses responsabilités, refuse de trancher le problème de la fermeture de l'usine, pour forcer, à travers ce refus, les gens à réfléchir sur leur avenir. 3, focus on ripening issues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toute situation problématique pour un groupe, pour des personnes, il y a toujours des temps de maturation, les choses évoluent. Et il faut vraiment essayer d'être à l'écoute de cette maturation, d'observer et de saisir les bons moments pour faire avancer les choses. Parfois, si on est trop tôt, on se plante, on n'est pas écouté, on n'est pas ceci, on n'est pas cela. Si on le fait trop tard, ben c'est trop tard. Il faut trouver le bon moment et voir comment les choses, les rapports de force évoluent, comment on peut les faire évoluer dans le bon sens. Ça demande cette intelligence tactique et stratégique dont nous avons parlé lors du premier cours, quand on parlait justement, rappelez-vous, Edouard Sakis, ce type qui était face à ses différentes parties prenantes, le conseil d'administration, les lobbies pro-life, etc. Comment adopter une stratégie, une tactique qui permet de faire évoluer les choses dans le bon sens? Ça demande, oui, du temps, de l'expérience, de réfléchir. Pas seulement croire qu'il suffit d'avoir la bonne idée pour avoir raison. En néerlandais, on dit « Het is niet genoeg om gelijk te hebben, je moet ook gelijk krijgen. » Et c'est vrai, avoir raison, et on n'a pas la nuance en français malheureusement. Avoir raison, tu peux avoir raison, mais ne pas recevoir, ne pas être reconnu pour avoir raison. C'est très différent. Et donc, ça demande du temps et des efforts. Quatrième grand principe, c'est donc de garder le niveau de stress tolérable. Et j'aime bien l'idée que prend Heifetz, deux idées, c'est de dire le leader, c'est celui qui est un peu comme aux manettes de l'avion ou d'une voiture qui roule très très vite, et vous avez le changement de vitesse qui commence à trembler, et bien vous devez le tenir le plus droit possible. Ça veut dire éviter que ça ne déconne complètement. Et à nouveau, trop peu de stress et les gens ne foutent plus rien, trop de stress et ils disjonctent, ils partent, ils fuient, que sais-je. Donc trouver le bon niveau là. Et il dit « control the pressure cooker ». C'est un peu comme si un groupe, c'est une sorte de marmite qui est en train de bouillir. Il faut contrôler la pression pour que ça reste à la bonne température. Et puis enfin, il dit quelque chose de très important aussi, c'est de protéger les voies de leadership autres que les siennes qui sont qui sont sans autorité. Et là, Heifetz fait une distinction très importante entre des leaders qui ont l'autorité formelle et ceux qui ne l'ont pas. Typiquement, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport à l'exemple que nous avons vu, le petit garçon n'a aucune autorité formelle. Il est n'importe qui dans le groupe. La police qui est là, le parlementaire, sont des gens qui ont des autorités formelles qui pourraient, grâce à leur autorité formelle, éventuellement prendre le leadership et faire avancer les choses. Ce qu'on voit, comme quelqu'un d'entre vous l'a dit tout à l'heure, il ne suffit pas d'avoir l'autorité formelle pour prendre le leadership. Beaucoup de chefs d'entreprise ne sont pas des leaders. Beaucoup de politiciens ne sont pas des leaders. Ils ont une autorité formelle, mais ils ne prennent pas le leadership au sens où Heifetz l'entend. Par contre, beaucoup de personnes qui n'ont pas d'autorité formelle sont des leaders et prennent le leadership selon les occasions. Voilà quelques-uns des principes. Mais vraiment, si tout ce que je vous raconte ici vous intéresse, lisez Heifetz. Je pense que les références sont dans les slides qu'on va vous donner. Lisez-le, vraiment, c'est formidable. Et je pense que vous apprendrez beaucoup. Tout ce que je vous donne ici, ce n'est qu'une première introduction à tout cela. Alors, ce que nous dit Heifetz aussi, c'est, bon, très bien tout cela, mais comment est-ce qu'on devient un leader? Alors lui, il est tout à fait contre l'idée qu'on naisse leader. Certainement, certains d'entre nous ont des aptitudes plus grandes que d'autres. Mais franchement, aucune de ces aptitudes n'est déterminante. On pourrait dire qu'il est plus facile d'être leader quand on est grand que petit, quand on a une grosse voix que quand on en a une fluette, etc. Mais toute l'histoire nous montre que, au contraire, il y a plein de grands leaders qui étaient très petits, et j'en passe des meilleurs. Donc ce n'est pas, il y a personne qui l'est véritablement, qui n'est leader, selon moi, Whitehead. Par contre, on peut travailler à essayer de l'être. Mais il y a plus que ça. On va y revenir. Mais alors, comment propose-t-il d'y travailler? Il dit qu'il y a au moins quatre grands types d'activités. Un, et là c'est plus vers l'extérieur, on doit apprendre à diagnostiquer les systèmes. Ce que vous disiez tout à l'heure, reconnaître les problèmes, etc. Et ça s'apprend aussi. Ça s'apprend avec l'expérience et en se confrontant aux problèmes. Comme je vous le disais aussi lors des premiers cours, les dilemmes éthiques, on peut passer à côté toute sa vie et ne pas se poser de questions. Si on se pose des questions face à des situations, on apprend à identifier les dilemmes éthiques. Et en apprenant à les identifier, on apprend aussi à les résoudre. Mais on peut très bien, deux personnes peuvent avoir des réactions totalement différentes face à un dilemme. Certains vont le voir, d'autres ne vont même pas le voir. On en a parlé tout au long des cours. Il y a des tas de gens pour qui polluer au travers de différentes façons, c'est même pas une question, ils ne le voient pas. Dans les années 60, beaucoup d'entreprises déversaient leurs produits chimiques dans les rivières sans se poser la moindre question. Et aujourd'hui, on fait des tas de trucs aussi pour lesquels on ne se pose pas de question. L'éthique, le leadership, c'est quelque part apprendre à s'en poser à bon escient. Deux, apprendre à mobiliser le système. Alors là, on revient à tous les principes que j'ai évoqués tout à l'heure. Et ça fait écho à toute une série de choses qu'on a données pendant les cours. Mais rappelez-vous, c'est aussi apprendre à agir politiquement. Non pas en termes d'un parti politique, mais en termes de rapports de force et de les faire évoluer. Et ça s'apprend aussi. Mais ce que dit Whitehead aussi, c'est que il y a tout un aspect intérieur. Ça, c'est, je vais dire, des compétences extérieures, diagnostiquer le système, apprendre à le mobiliser. Mais il y a, ce que dit Whitehead aussi, apprendre à se voir soi-même comme un système. Être soi-même traversé par des contradictions, par des oppositions, apprendre à se connaître, fondamentalement. On reprend l'idée du calme intérieur que j'évoquais tout à l'heure. Mais ce qui me paraît être clair, c'est que quand on pense à la plupart, je dirais en tout cas les 90% des noms que vous avez donnés, les Mandela, les Gandhi, les Malala, les que sais-je, toutes ces personnes, les Rosa Parks, quelque part, si vous regardez la vie de ces gens-là, Mère Teresa, Sœur Emmanuel, ce sont des gens qui, quelque part, ont travaillé sur eux-mêmes. Typiquement, Mandela, il a passé 25 ans, 30 ans en prison. Il est très probable qu'il s'il n'avait pas vécu ces années de prison, il ne serait pas devenu le leader qu'il est devenu. C'est précis. Alors, je ne dis pas qu'il faut souhaiter de passer 30 ans de sa vie en prison pour y arriver, mais quelque part, il est très probable, parce que bon, au départ, Mandela, il était dans une logique différente de celle qu'il était à la sortie de prison. Mais c'est précisément ce qu'il a fait comme travail sur lui qui lui a permis d'être un leader extraordinaire. Gandhi, même chose. Il a d'abord travaillé en Afrique du Sud, il s'est fait taper dessus, il a été humilié, etc. Enfin, si on prend toutes les personnes que vous avez citées, je pense que toutes, et c'est là à nouveau qu'on voit la différence peut-être entre le véritable leader et ceux qui prétendent l'être, ils ont vraiment eu des expériences qui les ont profondément marquées et sur lesquelles ils ont travaillé. Et donc, non seulement ils ont appris à se connaître, mais aussi à se déployer comme tel. Je ne peux pas rentrer aujourd'hui dans tout le détail de cela. Nouveau, si vous êtes intéressé, lisez Whitehead. Ça nous prendrait 10 cours pour pouvoir investiguer tout cela. mais c'est vraiment fondamental. Le message que je voudrais faire passer ici, il est très simple. C'est qu'il n'y aura pas de changement de notre économie si les gens ne changent pas intérieurement. Je le crois très profondément. Et à nouveau, tout le monde ne changera pas à la même vitesse. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un grand soir où tout d'un coup tout le monde se rend compte qu'il faut changer. Mais si progressivement il y en a de plus en plus qui s'en rendent compte, alors on pourra peut-être, in fine, arriver à cela. Un point aussi très important, et je voudrais que vous le gardiez en mémoire, je pense qu'on en a déjà parlé dans certains autres cours, c'est que, et on en a parlé tout à l'heure, c'est que vous n'allez pas réussir à faire bouger les choses si vous ne sortez pas de votre rôle. C'est-à-dire que, et vous l'avez vu, beaucoup ont refusé d'agir tout à l'heure parce qu'ils se disaient, oui, maintenant, ici le boss, hein, moi en l'occurrence, il va me crier dessus, il va me fâcher, il va me punir, machin. Des tas de trucs qui sont dans votre tête, seulement dans votre tête, pas dans la mienne, mais que je projetais, à juste titre ou pas. Mais donc, vous n'arriverez à rien si vous restez dans votre rôle. Et ça, c'est très dur à entendre et ça va à l'encontre peut-être de tout ce qu'on nous apprend. Mais je pense que c'est profondément vrai et que si vous restez dans le rôle qu'on vous a fixé, eh bien, tout restera comme ça. Vous devez sortir. Vous devez challenger les barrières. Et en fait, ce que vous vivez probablement avec vos parents, d'une manière ou d'une autre, ce que vous avez déjà vécu en fonction d'où vous en êtes avec eux, c'est d'avoir poussé pendant toute votre adolescence à tester les barrières. Ce que vous avez vécu là avec vos parents, il faut les vivre aussi avec la société. Alors, ça veut dire quoi ? C'est savoir jusqu'où il faut aller. Si vous sortez très vite ou trop vite de votre scope of authority, le risque est grand de vous faire tuer. Tuer symboliquement, j'entends. Dans certains cas, ça peut être tuer littéralement. Mais il faut voir jusqu'où vous pouvez aller pour faire bouger les lignes, sans vous faire éliminer trop vite. Je reprends l'exemple de Sakis, par exemple. Vous vous rappelez, il n'a pas voulu trop vite s'opposer au conseil d'administration. S'il l'avait fait, qu'est-ce qui se serait passé ? Il se serait remercié et remplacé par quelqu'un de plus coopérant avec le conseil d'administration. Donc, il a été loin, aussi loin qu'il pouvait, mais tout en veillant à ce qu'il puisse être maintenu dans sa position pour pouvoir continuer à faire avancer les choses. Donc, il faut toujours garder essayer en tout cas de trouver cet équilibre entre le besoin de faire bouger le système, les frontières du système, mais malgré tout sans se faire complètement éliminer. Alors ça dépend, chacun peut trouver son rôle, certains vont carrément sortir du système, vont devenir des révolutionnaires, des gens qui vont l'attaquer de l'extérieur, d'autres vont le faire bouger de l'intérieur. Typiquement aujourd'hui, ça peut être la position de quelqu'un qui, comme Vincent ou comme moi, reste dans le système et essaye de le faire bouger de l'intérieur, et inversement, des gens qui, par exemple, dans Greenpeace, attaquent le système de front. Il n'est pas question ici de dire que l'un est meilleur que l'autre, je crois qu'il faut des deux. Simplement, il faut se dire dans quel jeu on veut jouer. Mais quel que soit le jeu, être prêt à faire bouger les frontières de ce jeu si on veut que le système change. Et dernière chose, c'est ceci. C'est que, je voudrais vraiment tuer cette idée, c'est que on a tendance à classifier les gens en tant que leader et suiveur. C'est de la connerie. Nous sommes tous leaders et suiveurs, selon les circonstances. Il n'y a personne qui peut se prétendre être tout le temps un leader. Et le type qui joue à être tout le temps un leader, c'est le roi des cons. Et il ne l'est pas, certainement pas. Il n'arrivera pas à mobiliser les gens. Donc, ce que dit ici Strom, et qu'on voit bien à travers l'image de ce petit gars qui, à un moment, a pris le leadership pour après être un parmi les autres, c'est que to lead wisely is to pay attention to the very ordinary yet difficult human phenomenon of how a person comes to the fore, vient, se met en avant, ou est mise en avant, in one context, and gets behind someone else in another. Accepter ce mouvement d'être en avant, d'être derrière, comme étant, faisant partie intégrante du leadership. Alors, avec tout cela, je voudrais qu'on discute pour terminer sur les deux cas de Lyndon Johnson. L'un dans le cas des Black Civil Rights et l'autre de la guerre du Vietnam. Et sur base de tout ce qu'on a discuté maintenant, en fonction de l'heure, il est quelle heure là ?
4h10.
Comment ?
4h10.
4h10. 4h10. Ben de voir, donc on a le temps, de voir fondamentalement qu'est-ce que tout ce que je vous ai raconté et tout ce que vous aviez lu vous permet de dire sur Lyndon Johnson, sur Martin Luther King, sur les autres personnages dans ces deux cas. Vous avez compris. Bien ?
Dans le premier cas, moi je trouve qu'il a bien réagi.
Oui.
Mais dans la deuxième, je pense qu'il a fait une erreur.
Et pourquoi ?
Parce que dans le deuxième cas, il a stimulé les autres gens, les Américains, oui, à penser avec son speech là, je ne sais plus. Et dans le deuxième cas, il a sûrement dit, il n'a pas, pas donné le choix.
Mm-hmm. D'accord. D'autres réflexions sur ces deux cas. Qu'est-ce que ça vous a dit ? Quelles ont été les réflexions que vous avez eues sur ces deux cas ? Bien.
Je trouve dans le deuxième cas qu'il a affaibli le problème. Il n'a pas vraiment dit la vérité. Et il a seulement dit des choses qu'il pensait que les gens vont dire, bah oui, il a raison, on doit contre-agir parce que c'est pas normal qu'il nous attaque. Mais toutes les autres choses, il n'a pas mentionné.
Il n'a pas mentionné, oui. Et qu'est-ce qu'il a bien fait dans le premier cas alors, selon vous ? Qu'est-ce qui vous paraît intéressant ? Comment est-ce que vous analysez avec vos mots ou avec toute la théorie qu'on vient de voir le premier cas ?
Il a bien réfléchi avant de réagir.
Oui.
Comme tout de pizza, je pense, parce que tout d'abord, il savait qu'il y avait un problème, mais il a tout d'abord pensé, donc il a demandé à l'autre de ne pas réagir maintenant, mais un peu attendre, et après il a fait son speech, et je trouve qu'il l'a bien fait. Mm-hmm.
D'autres réflexions par rapport à ce cas qui est très riche, hein. On pourrait passer des heures dans l'analyse de ce cas. Oui ?
Bah, le fait qu'au début il n'a pas voulu réagir et qu'il n'a rien fait, ça a justement poussé les gens qui voyaient les choses à la télé et tout à se dire eux-mêmes que ça n'allait pas, et c'est eux qui lui ont mis la pression qu'enfin il agisse, mais j'ai l'impression que c'était un peu voulu de sa part.
C'était totalement voulu de sa part, effectivement. Qu'est-ce que ça nous dit encore ce cas ? Donc il y a cette volonté, là ça illustre bien ce que dit Heifetz, focus on ripening issues. Donc il a laissé mûrir un peu les choses. Il a refusé de prendre trop vite des décisions, de prendre position trop vite pour justement faciliter cette prise de conscience dans la société américaine qu'il fallait peut-être changer. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre que simplement attendre ? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre pour faire avancer les choses ? Sans y toucher, oui.
Il a aussi fait appel à quelqu'un pour vous aider parce qu'il a quand même eu l'humilité de se dire je ne sais pas faire tout seul.
Et qui est ce quelqu'un ? King. Bon, on ne peut pas dire qu'il l'ait appelé, Donc comment est-ce qu'il a fait justement ?
Il a reconnu qu'il a besoin de son aide, c'est très conscientisé.
Il a fait plus que reconnaître qu'il avait besoin de son aide. Qu'est-ce qu'il a. Si vous analysez un peu leur interaction, qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble ? En fait, Oui, vas-y, vas-y, vas-y.
Bah, ils ont fait des choses pour que les personnes réagissent eux-mêmes.
Oui.
Et donc là, ça me réactive.
Oui, pour stimuler des réactions.
Oui, pour stimuler des réactions. Et comme ça, les Américains ont fait conscience du problème et tout ça.
Oui. Et donc, pour aller dans ton sens, mais pour aller aussi dans le tien, il y a, si vous relisez le cas, vous voyez qu'en fait Lyndon Johnson freine à certains moments Martin Luther King pour le protéger, pour l'empêcher d'aller trop vite, parce qu'il sent très bien que si Luther King allait trop vite, il risquerait de se faire tuer entre guillemets trop tôt. Il sent très bien qu'il y a une polarisation entre le Ku Klux Klan, entre Luther King et ses... Et là, ce qui est extraordinaire chez Lyndon Johnson, c'est sa capacité à protéger cette voie de leadership qu'est Luther King, mais qui n'a pas d'autorité formelle. Lyndon Johnson, lui, il est président des États-Unis. Il a une autorité formelle, il peut faire certaines choses. Martin Luther King n'a pas d'autorité formelle. C'est pas un politicien élu, etc. Il a seulement l'autorité qui vient de ceux qui le suivent. C'est une autorité forte qui lui permet de faire bouger les choses, mais qui évidemment peut clasher avec d'autres personnes qui ont des visions opposées. Et donc il sait que, Lyndon Johnson, il sait que si on laisse Martin Luther King aller trop vite, ça va mener à des clashs avant même que les gens soient prêts à faire le basculement dans leur tête. Donc au contraire, il va avoir une sorte de ballet, hein, de danse entre lui et Luther King pour faire, au travers de leurs contacts formels, informels, etc., faire avancer la société à un rythme adéquat. Et donc ce qui est intéressant aussi dans ce cas, c'est de voir qu'il n'y a pas qu'un leader, il y a plusieurs leaders dans cette histoire. Il y a bien sûr Lyndon Johnson en tant que leader qui a une autorité formelle, il y a Martin Luther King en tant que leader qui a une autorité informelle, et puis il y a des tas d'autres acteurs qui jouent leur rôle à des niveaux différents et qui tous contribuent à cette maturation de la société américaine dans son basculement vers l'acceptation collective du fait que les Noirs un droit à être reconnu et avoir des droits politiques comme tout le monde. Mais à nouveau, vous voyez que ce qui est important, c'est de voir que ça ne se fait pas comme ça d'un seul coup, qu'il ne suffit pas pour le leader de faire un beau discours et de dire tout le monde a droit. Non, ça ne suffit pas. C'est au contraire toute cette tension, cette modulation du stress qui va faire évoluer les choses dans la société américaine. Et là aussi, on pourrait aller plus dans le détail, mais montrer que, donc, clairement, Lyndon Johnson a reconnu que le problème était non pas un problème simplement technique de dire est-ce qu'on vote ou pas telle ou telle loi. Non, c'était d'abord le changement de mentalité dans l'ensemble de la population américaine qui allait permettre que ces solutions techniques, alors après, arrivent. Et en ce sens, effectivement, on voit très bien que Luther King, que Lyndon Johnson a complètement manqué le défi adaptatif de la guerre du Vietnam. Et donc ça montre bien qu'une personne qui a été exemplaire en termes de leadership dans un contexte peut se planter du tout au tout dans un autre. Et là, si on reprend tout ce qu'on a vu auparavant, on peut expliquer pourquoi. Lyndon Johnson était un politicien dont toute la carrière avait été essentiellement locale, au Texas, etc. En termes de politique étrangère, il avait très très peu d'expérience. Et en fait, autant il a été habile donc dans la gestion de la crise concernant le droit de vote des Noirs, autant il a été complètement incompétent dans l'autre. Et en fait, ce qui s'est passé, tel que Heifetz l'explique, c'est que, ne se sentant pas tout à fait à l'aise dans le type de politique, de problématique de politique étrangère, il a voulu se montrer très, très compétent, justement, en prenant des décisions tranchées. En disant, voilà, il faut faire la guerre, etc., il faut aller. Et sans stimuler le dialogue au niveau de la société américaine. En ayant peur, justement, parce que maîtrisant moins ce type de problématique, en ayant peur que le dialogue, la conversation, toute l'évolution du problème ne lui échappe. Et ce faisant, alors, en fait, il a complètement loupé la problématique. Et malheureusement, à cause de cela, le retrait des troupes américaines s'est terminé sur un fiasco. Et donc, vous voyez que le leadership, de ce point de vue-là, c'est la vision d'Heifetz que je vous partage ici. D'autres pourraient avoir des interprétations différentes. Ce qui me paraît en tout cas important, c'est qu'au moins cette vision nous force à revoir un peu nos idées sur le leadership. Et si déjà, même si vous n'êtes pas convaincu de tout ce que je vous dis, si déjà ça vous a aidé à penser un peu différemment, c'est déjà beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont paru importantes dans les deux cas de Lyndon Johnson ? Non ? Tout est clair ? Ok. Alors, oui, pour terminer, revenir un peu sur Machiavel. Parce qu'en termes de leadership, Machiavel, vraiment, il faut le relire. Il a aujourd'hui encore mauvaise presse, dans le sens où beaucoup disent, voilà, c'est machiavélique. Donc on a retenu de lui que cette idée de type qui manipule la situation pour obtenir leur fin, et qui sont prêts, en fait, à justifier n'importe quel moyen pour obtenir leur fin. Ce n'est pas du tout ce que Machiavel nous dit, c'est ce qu'on en a fait. Mais par exemple, ce qu'il dit ici, c'est fondamentalement qu'on peut être à la fois craint et aimé en tant que leader, mais que comme il est souvent difficile que les deux aillent ensemble, il est préférable, s'il le faut, il est plus sûr, d'être craint que d'être aimé. Et pourtant, le prince, donc le leader, ne devrait jamais être craint de telle façon à ce qu'il évite, à être haï. Donc il faut, être craint n'est pas vraiment un problème, ça peut être nécessaire. Mais par contre, ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est d'être haï. C'est peut-être difficile à entendre pour des gens qui baignent dans une culture où il faut être en harmonie, etc. Ce qui est vrai en absolu. Mais quand vous faites face à des groupes pour les aider justement à se mobiliser, il est parfois nécessaire d'être craint et de ne pas avoir peur d'être craint et de ne jamais rien faire qui pousse à ce que vous soyez. Et la nuance n'est pas facile à saisir, mais elle est fondamentale. En tout cas, ce qui me paraît clair aussi, c'est que lorsqu'on a une autorité formelle, on ne doit pas nécessairement essayer d'être aimé. On doit accepter d'être craint. Voilà. Alors, pour terminer maintenant, et ça vous sera utile dans votre travail, c'est de reconnaître, et c'est un peu faire la pizza au niveau des acteurs de changement, c'est de voir un peu les types de personnes que vous allez pouvoir rencontrer qui contribuent au changement. Alors, en fonction des entreprises dans lesquelles vous allez faire votre travail, bah, vous allez reconnaître différents types de personnes, des groupes qui bloquent, des groupes qui sont pour le changement, etc. Ça, on vous laisse évidemment le soin d'essayer de les déceler. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser cette grille de Visser, dans laquelle il distingue quatre grands groupes, les experts, les facilitateurs, les catalystes, les activistes, qui ont tous, si vous voulez, des rôles différents à jouer dans le changement. Hein, certains qui poussent véritablement beaucoup plus certains changements plus globaux, plus sociétaux, d'autres qui vont contribuer à cela au travers d'un input spécialisé, plus sur des questions justement techniques. Donc vous voyez qu'ici on peut retrouver un peu des distinctions qui touchent aux adaptive challenge versus les technical challenges. Voilà, c'est pas la peine ici de détailler tout cela, vous de voir et de l'utiliser comme bon vous semble par rapport à l'analyse de vos cas. Voilà, avec ceci, je pense que Vincent et moi, on clôture un peu les cours magistraux qu'on veut vous donner. La semaine prochaine, c'est la semaine prochaine, ou non, c'est dans presque 3 ou 4 semaines, on aura encore des témoignages d'acteurs de changement dans des entreprises qui bougent. Voilà, on partagera avec eux via vidéoconférence vos questions sur tout ce qu'on a vu ensemble. Et puis après, ce seront les deux derniers cours où vous nous présenterez les résultats de vos analyses. Voilà, il est quelle heure là maintenant, Vincent ?
Il est 25.
Il est 25. Donc il nous reste quelques minutes. Si vous avez encore des questions sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui, sur le leadership en particulier, sur la gestion du changement. Est-ce que vous avez des questions ? Si vous n'en avez pas, profitez encore des rayons de soleil qui restent. Merci.